en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Vous connaissez sans doute Argan, le malade imaginaire de Molière. Dès le début de la pièce, le long monologue d'Argan constitue la folie du malade. Un narcissisme tatillon qui se complaît dans les louanges de beaux jours maladifs. C'est ce qu'explique Patrick Dandré dans une communication à l'Académie de médecine lors de la journée du livre médical 2010 qui portait sur le rapport ambigu entre Argan et l'auteur-interprète Molière qui mourra après la quatrième représentation de la pièce. Patrick Dandré est professeur à l'université Paris-Sorbonne. Il est spécialiste de la littérature du XVIIe siècle français et de l'histoire de la mélancolie ancienne. On l'écoute.
Bien, merci, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le président, mesdames, messieurs. Oui, c'est la fin des images. C'est la fin des images. Je suis absolument désolé. La littérature intervient. Je fais donc appel à votre imagination. C'est normal d'ailleurs parce que je vais vous parler du malade imaginaire. La dernière pièce de Molière est celle qui l'a tué. Vous imaginez le paradoxe. Je vais essayer de vous parler de la mort à propos de comédie. Le rideau se lève. Un homme seul est en scène. Je cite Argan, seul dans sa chambre assis. Une table devant lui compte des parties d'apothicaire avec des jetons. Il fait, parlant à lui-même, les dialogues suivants. Je ne vous lis pas les dialogues, vous les connaissez. Au lever du rideau, Argan, seul sur le plateau, fait ses comptes et les commente. Et cela dure une scène entière. Rien là que de parfaitement original. Dans les années 1670, on avait complètement perdu l'habitude des monologues d'introduction comique. Rien là que de paradoxal, car c'est une exposition qui n'expose rien. Nous n'apprendrons rien sur l'intérêt de la comédie, sur l'enjeu dramatique de la comédie, sur le mariage qui se fera ou qui ne se fera pas. Et rien que d'énigmatique aussi. Quelle folie tient donc Argan de se pourlécher ainsi au souvenir des traitements, on peut dire, assez incommodes, surtout par l'endroit de son corps où ils entrent, qu'il a subi dans le mois passé. Quelle inconséquence de se complaire à ce ressassement qui, en lui rappelant le mal dont il se croit atteint, devrait paraître des plus lugubres. En fait, l'originalité de cette forme, le monologue, le paradoxe de ce traitement et le caractère énigmatique de ce propos relèvent d'une seule et d'une même explication, concourent à un seul et même but, ils sont commandés par la nature du sujet traité, c'est-à-dire la maladie imaginaire, et ils contribuent, dès le lever du rideau, a constitué en un cas, au sens presque clinique, la folie du malade imaginaire. Oscillant en effet entre la tirade de spécialistes et l'éloge paradoxal de la pharmacie, cette espèce de soliloque fort long du bonhomme replié sur lui-même, sur sa liste de remèdes, sur l'état de son corps, soliloque offre le tableau saisissant d'une vie entière absorbée dans un narcissisme tatillon et étourdiment inconvenant, il faut bien le dire. L'inconvenance même des allusions au corps malportant, aux remèdes malpropres, aux formes de médication malsonnantes, formulées dans un jargon qui n'a rien d'heureux pour l'oreille, tout cela suggère l'adhésion, l'identification totale, exclusive, j'ai envie de dire, passez-moi l'expression, l'identification gourmande du personnage avec son sujet, c'est-à-dire avec lui-même. Avouons-le, nous sommes tous ainsi, nous nous aimons beaucoup. On songe à ce portrait incisif et moqueur qu'avait esquissé Montaigne et qui est peut-être la source, sinon de la pièce entière, du moins de la scène. Montaigne écrivait « Si ai-je vu un gentilhomme qui ne communiquait sa vie que par les opérations de son ventre ?» Vous voyez chez lui, en montre, un ordre de bassin de 7 ou 8 jours. C'était son étude, son discours, tout autre propos lui puait. De même pour le discours monologué d'Argan, clos lui aussi à tout autre propos que son évidence arrogante. C'est un homme enceint, fermé dans l'enceinte de son image de lui-même. Alors, à l'intérieur de cette clôture, quel spectacle varié, quelle puissance de l'image arrogante. Dans un feuilleté de voix et de ton, surgit d'un amoncellement d'objets, car autour de lui il y a une bourse, des jetons, des parties, une clochette, des ordonnances. La tirade se déploie en un véritable dialogue du personnage avec lui-même et avec les autres, les absents.
en un jeu dramatique varié, multiple. C'est un morceau d'acteur formidable. Tout le monde rêve d'être acteur pour avoir joué un jour cela. C'est une espèce de concentration effarante, additionnelle, d'organes, de fonctions, de sommes, de médications, infiniment difficile à dire, mais quand on le dit bien, admirable d'effet. Ça s'épanouit, je dirais, en une espèce de louange des beaux jours de bonheur maladif qu'évoque à Argan la chronique médicale de son traitement du mois dernier. Je suppose que tout médecin rêve d'avoir des patients comme ça. Ce sont des patients agréables, n'est-ce pas ? Ils aiment ça. Un bonheur maladif dont on hésite d'ailleurs à déterminer l'origine. Est-ce que c'est le bonheur d'être malade, donc digne des soins précieux qu'il se remémore, ou est-ce que c'est le bonheur d'avoir été préservé de la maladie par ses soins ? Ainsi se trouve suggéré de manière exemplaire, et c'est en quoi cette tirade est vraiment une tirade d'exposition, l'énigme que constitue la lubie de ce personnage. Alors poussons un peu les choses du côté de cette énigme. Quelques remarques d'abord. D'abord celle-ci, qu'à détailler ainsi son corps, son compte et son régime, notre malade imaginaire fait jouer les trois facettes majeures de son personnage, ce qui va être sa personnalité durant toute la pièce, c'est une scène d'exposition, c'est-à-dire un patient consciencieux, un bourgeois fortuné et autoritaire qui compte ses sous, et un amateur passionné de délicatesse pharmaceutique. Ensuite cela, c'est qu'à remémorer avec cette gourmandise dévote et sagace ses aventures végétatives du mois écoulé, il se montre à la fois capricieux comme un enfant, c'est son infantilisme, et soupçonneux comme un despote toujours trompé. Je ne suis pas médecin, mais je pense que vous avez tous rencontré de ces patients qui sont à la fois infantiles et despotiques. Il paraît que la maladie rend ainsi. Peut-être est-ce aussi que tous les enfants sont des despotes. C'est une autre question. Enfin, absorbé par ces objets qui l'entourent, par ces listes qui le décrivent, par cette addition qui le détaille, le personnage ne paraît-il pas régresser au stade organique d'un corps écrit et décrit d'un tube digestif qui ne fait qu'absorber et rejeter. « Sac !» dira M. Purgon. « Je voulais vider le fond du sac. »« Fardeau !» soupirera sa femme, Béline. « Et grand fardeau !»« Va chaler !» ironisera Toilette. À l'entendre clamer « drelin, drelin !» pour hausser le timbre de sa sonnette, à le voir dans ce désir de hâter la satisfaction du nouveau caprice qui lui a traversé l'esprit, on croirait saisir l'emblème de cet homme orchestre qui se fait clochette après s'être réjoui de se voir réduit à l'état organique. Argan a vocation d'objet. Objet de pitié, je suis un pauvre malade. Objet d'intérêt respectueux, les entrailles de monsieur. Objet d'examen, objet de soin, parlant de soi à la troisième personne, idolâtrant son corps, mis comme à distance de contemplation, par le décalage de la remémoration, mes remèdes du mois passé, de l'énumération, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et de l'évaluation, lequel coûtait le plus cher. Faut-il dès lors imaginer Argan en victime imaginaire ou en despote madré ? Le jeu de scène et la teneur de ses propos autorisent l'une et l'autre lecture. Si vous voulez, la balance est maintenue égale entre l'image d'un bonhomme un peu toqué, pitoyable, naïf, floué dans sa puérilité gâteuse, et puis de l'autre, l'image d'une conscience matoise, impérieuse, impulsive et pourtant calculatrice. Les deux images s'associent dans une incertitude un peu retorse qui fait de ce nouvel Orgon, tout confiant en dévotion, la première victime, la première dupe et en même temps l'heureux obligé du Tartuffe qu'il est aussi. C'est à la fois Orgon et Tartuffe en un seul personnage. Tout doit autour de lui se soumettre à ce délire d'un mal prétendu dont les médecins et les médecines sont chargés d'incarner le fantasme dans le corps réel du patient sous la forme du régime de vie que décrit son monologue d'exposition, un régime de vie qui va s'épanouir durant toute la pièce et qui va trouver alors son parachèvement magnifique dans le cérémonial caricatural au dénouement quand Argan est fait médecin et que s'achève ainsi en boucle la course de l'intrigue. Corps bien réel, donc corps médiciné, mais maladie évidemment toute imaginaire. Car la folie d'Argan s'est prise à un piège redoutable, celui d'une sensation, oh, c'est moins encore qu'une sensation, c'est une impression, en l'occurrence morbide. Il n'est, on le sait bien, rien de tel que les impressions, insaisissables et évanescentes, pour favoriser l'erreur d'appréciation, l'illusion, l'égarement et l'obstination qui s'ensuit. Et encore, est-ce trop dire, encore faudrait-il nuancer, plutôt que de sensation, plutôt que d'impression, il faudrait parler d'une intention, d'un désir de sensation morbide. Argan ne déduit-il pas de la récapitulation de ses remèdes le malaise qu'il lui paraît convenable et justifié d'éprouver ? Que nous dit-il, si bien d'un que de ce mois, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 médecines et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 lavements. L'autre mois, il y avait 12 médecines et 20 lavements. Je ne m'étonne pas si je ne me porte pas si bien ce mois-ci que l'autre. Entre la réalité du corps et la sensation purement fantasmée du mal, l'attestation est apportée par la présence de la médecine, par la présence des médecins, qui conforte, je dirais mieux, qui incarne cette sensation. Chez Molière, la médecine sert à vous prouver que vous êtes malade, pas à vous guérir. Car, et c'est là le malheur d'Argan, son corps s'amuse à démentir constamment ce que son esprit imagine. Son corps travaille à le démasquer. C'est une très troublante relation, si on y pense, que celle du rapport d'un homme avec son corps en traverse du rapport qu'il a avec son esprit. En somme, troublante conséquence de l'ambiguïté inhérente à la maladie imaginaire, Argan se prend les doigts dans le décalage comique entre la certitude qu'il souffre et l'incertitude de ce dont il souffre, son frère Bérald. Mais enfin, quel mal avez-vous, Argan ? Hein, vous me feriez enrager. Je voudrais que vous lussiez mon mal pour voir si vous jaseriez tant. On n'en saura pas davantage. Ce n'est plus seulement la fixation sur un idéal chimérique ou la confiance aveugle en un imposteur illusionniste qui s'exprime ici, c'est toute l'ambiguïté d'une relation faussée de soi à la matière de soi à la sensation de soi. Argan se sent mal, mais au fond, il ne se sent aucun mal. Et c'est pourquoi justement il court après les médecins. Parce qu'il attend d'eux qu'ils lui disent comment il se porte, c'est-à-dire qu'il donne forme, qualité, existence à son mal. Ce qui inverse et pervertit pour le coup leur vocation, à moins qu'on ne considère, comme Molière, que là réside leur véritable fonction, rendre malade ceux même qui ne souffrent de rien pour faire fortune. Je ne sais pas si on fait fortune dans ce métier, mais à cette époque-là, Molière pensait qu'on le faisait. Comme on le voit, la satire de l'illusion médicale dans cette comédie réside au principe de l'illusion chimérique. C'est une comédie où le côté satirique et le côté, pardonnez-moi le mot, anthropologique, sont en étroite alliance et forment une totalité qui est une œuvre d'art. Bérald ne sait pas si bien dire quand il prévient son frère que le traitement auquel le soumet M. Purgon le met droit à la tombe. À croire qu'Argan n'attend rien tant que la couronne du martyr pour faire prendre enfin au sérieux ces jérémiades par les incrédules. Et combien de malades qu'on ne prend pas assez au sérieux rêvent effectivement de mourir pour voir la tête que ferait leur famille. Le drame, c'est qu'ils ne seraient pas ce qui les préserve de tenter la chose. Or, de cette maladie, Argan ne mourra pas, mais Molière, si. Et ici s'ouvre l'abîme d'étrangeté que suppose la relation ambiguë d'un poète, qui est aussi un comédien, avec le dernier de ses rôles, écrit par lui, joué par lui, porté par lui, jusqu'au tombeau. C'était la coutume, chaque 17 février, je ne sais si elle est toujours respectée, qu'au terme de la représentation à la Comédie-Française, le doyen paraisse sur le plateau pour lire ceci, extrait du registre de la troupe de Molière tenue par son fidèle compagnon de scène, Lagrange. Ce jour même, après la comédie, sur les 10 heures du soir, M. de Molière mourut dans sa maison rue de Richelieu, ayant joué le rôle du malade imaginaire, fort incommodé d'un rhume effluxion sur la poitrine qui lui causait une grande toux, de sorte que dans les grands efforts qu'il fit pour cracher, il se rompit une veine dans le corps et ne vécut pas 2 heures ou 3/4 depuis la dite veine rompue. Son corps est enterré à Saint-Joseph, aide de la paroisse Saint-Eustache. Il y a une tombe élevée d'un pied hors de terre. Et son premier biographe ajoutera 30 ans plus tard qu'en prononçant « Jureau » dans la scène de travestissement de Molière en médecin, il dut masquer d'un rire forcé la douleur qu'il éprouvait. Je cite « Molière représenta avec beaucoup de difficultés. Et la moitié des spectateurs s'aperçurent qu'en prononçant « Jureau » dans la cérémonie du malade imaginaire, il lui prit une convulsion. Ayant remarqué lui-même qu'on s'en était aperçu, il se fit un effort et cacha par un rire forcé ce qui venait de lui arriver. Dès le lendemain de la mort de Molière, évidemment, ses ennemis comme ses amis on relevait les uns cruellement, les autres douloureusement, ce paradoxe, cette relation étrange et paradoxale entre le rôle qu'il incarnait, celui d'un malade imaginaire, et la réalité du mal, rien moins qu'imaginaire, qui venait de l'emporter. Alors, que savons-nous de la relation que Molière entretenait avec ce mal? Que savons-nous de la nature de ce mal? Peu de choses. Certains, tout récemment, ont même nié les choses. Molière serait parti d'un rhume pris la veille. D'autres ont brodé jusqu'au mythe sur la vie maladive de Molière. Il serait quasiment né malade. À vrai dire, comme on ne sait rien sur ce sujet, et comme peu de témoignages nous restent, et que tous semblent accréditer que Molière se portait mal, je les croirais volontiers, faute de mieux, parce qu'il n'y en a aucun autre à leur opposer. Et je tiendrai donc pour un texte écrit de la main de Molière, même s'il a été publié posthume, le fameux passage du malade imaginaire où son porte-parole, Bérald, évoquant de l'intérieur de la comédie, le refus de Molière de se soigner, dit plaisamment que se faire médicamenter par la faculté n'est permis qu'aux gens vigoureux et robustes, et qui ont des forces, de reste, pour porter les remèdes avec le mal, mais que, pour Molière, il n'a justement de la force que pour porter son mal. Où je verrai un aveu explicite du souci que cause au poète son mauvais état de santé. Alors, dès lors, comment et pourquoi cet homme qui se sentait malade, en tout cas affaibli, tracassé, accablé de tâches, une sorte de situation dans laquelle s'est retrouvé Mozart à la fin de sa vie, qui n'est pas mort d'autre chose que de cet accablement, de ce surmenage, pourquoi cet homme écrivit-il et incarna-t-il le rôle d'un malade imaginaire qui allait le terrasser? Le mystère de l'ultimum opus qui nous intéresse aujourd'hui se pose ici avec une acuité que l'événement rend encore plus incisive. Mon hypothèse sur ce sujet, la voici. Il me paraît que le personnage d'Argan, malade mais imaginaire, malade par erreur médicale, par quiproquo si vous voulez, et bien portant qui s'ignore, que ce personnage aura été voué par son auteur, qui était aussi son interprète, à opérer une sorte de transition magique de la souffrance morbide à la santé retrouvée, que ce personnage aurait été voué à se constituer à la fois et contradictoirement le bouc émissaire du vrai mal dont Molière dans la comédie se reconnaît explicitement accablé, et qu'il aurait été aussi le garant de l'espoir que toute maladie ne soit, après tout, qu'imaginaire. Cela étant rendu possible parce que Molière est à la fois l'auteur et l'interprète du personnage d'Argan. Pour guérir Argan, on sait que son frère lui propose d'assister à une comédie de Molière. Pour guérir Molière, Argan lui permet d'offrir au public la comédie de son mal repeint en mal imaginaire, la comédie de son corps, ce corps objet du délit, de véritable maladie, déguisé en médecin imaginaire. Cette relation ambiguë est compliquée par le fait donc que Molière jouait les rôles écrits par lui. Or, on écrit avec la tête et la main, mais on joue avec le corps tout entier, de tout son corps. C'est une implication totale, angoissante, et d'autant plus angoissante lorsqu'au tracas de santé quotidien et aux incertitudes régulières sur le succès, se joint chaque soir la hantise d'une défaillance physique. Le 17 février 1673, on imagine effectivement quel métier il fallut au vrai malade qui en incarnait un faux pour masquer en un rire forcé une convulsion et un crachement de sang. Cet accident fatal, qui n'a peut-être pas été le premier, constitue plus qu'un exemple pour moi. Il est véritablement un emblème du détournement qu'un grand acteur sait opérer sur les contingences d'une maladie, d'un événement, qui, au lieu de le priver de ses moyens, le contraint d'imaginer un jeu de scène supplémentaire. C'est l'invention d'un jeu de scène comique dans le hoquet de la mort. C'est une chose stupéfiante au regard de l'histoire de l'art. Peut-être même, j'élargirai la chose, peut-être de même, Argan fut-il, à sa façon, une forme de défi, tirant héroïquement leçon et parti d'un handicap, métamorphosé par son auteur en principe d'inspiration, en ferment d'invention, tremper sa plume dans l'encre dernière, dans le sang qui va se figer. Étrange mouvement donc de tourniquet. Le comédien récuse son mal en l'exprimant à travers le masque du personnage incarné par lui, lequel personnage s'en prétend atteint et se porte en réalité comme un charme. Molière, en somme, doit se faire bien portant imaginaire, lui qui est malade, pour incarner en Argan un malade imaginaire, alors qu'Argan est bien portant. C'est une équation mathématique. Bon, mais elle est facile, celle-là, de celle que je peux encore résoudre. En cela, le rôle d'Argan a été pour Molière de second degré, une forme d'exorcisme et d'auto-ironie qui détourne tout en montrant et qui exprime tout en esquivant. C'est peut-être ça la pudeur classique. Ces gens-là, on nous dit qu'ils n'ont jamais parlé d'eux-mêmes. Si, ils ont sans cesse parlé d'eux-mêmes, mais jamais on ne s'en rendait compte parce que ce n'était pas direct. C'était des gens agréables à fréquenter, je suppose. Son mal aurait donc dû constituer pour Molière une entrave à son jeu, un parasite, ou pour reprendre une image qui lui est propre, ce qu'il appelait un fâcheux. De fait, la mort est une fâcheuse qui rompt la relation et qui aurait pu rompre la relation de Molière entre lui et ses rôles. Mais ce mal s'est trouvé par l'invention subtile, et j'ai envie de dire héroïque, d'un personnage de malade par erreur et pour rire. Cette invention s'est trouvée favoriser une forme nouvelle de relation entre lui et son propre corps qui le trahissait. La maladie fictive d'Argan lui offrait la possibilité à la fois d'assumer son mal, ce qui est lucide et courageux, et de l'assumer sans s'y résigner, sans en être accablé, puisqu'Argan n'est pas malade. La logique du rôle exigeait donc du comédien qu'il l'incarnât avec une santé rayonnante et patente. Et voilà comment une fâcheuse maladie qui menaçait de perturber la relation entre un comédien et ses rôles devient au contraire pour lui un éperon pour son inspiration et une obligation morale de réussir à tenir son rôle et donc d'être bien portant. Il y a des gens, dit-on, dont la fonction ou le métier leur interdit de mourir parce qu'ils se pensent indispensables. Et ils continuent de vivre, aux yeux éberlués de leur médecin. Ainsi, le personnage de malade qui menaçait de révéler douloureusement aux yeux de Molière son état constitue en réalité un subterfuge intuitif admirablement efficace pour l'assumer. Simple acteur, Molière aurait vécu la maladie comme une insupportable perturbation entre lui-même et son rôle. Il aurait pris en plein visage la révélation de son vrai mal devant la difficulté d'en incarner un faux. Simple écrivain cloîtré dans son cabinet, il n'aurait pu vivre qu'en imagination et par procuration l'exorcisme de sa maladie incarné dans le corps d'un autre, puisqu'il ne l'eût pas joué, le corps d'un comédien qui n'eût pas été son corps à lui, qui n'eût pas fait corps avec lui. Mais comédien et poète à la fois, et c'est cela qui est miraculeux, il a su concevoir le rôle d'un homme sain jouant la maladie, la feignant sans l'éprouver, bref, le rôle d'un acteur incarnant un malade sans être malade, tout le contraire de ce qu'il était. Cette situation lui permettait à la fois de murmurer son mal, de se l'avouer par l'écriture et de le rejeter, de le récuser par l'interprétation du rôle, en quoi il conjoignait ces deux fonctions. Ça lui permettait de prouver sa santé par la capacité de tenir son rôle, à condition bien sûr de le tenir. Car la défaillance de l'acteur menaçait de trahir l'auteur. Pour figurer Argan, il fallait un visage plein de rondeur, un corps plein de vie, une bonne santé insolente, contrastant plaisamment avec la maladie prétendue. Or, son miroir devait renvoyer à Molière une image de malade bien peu et bien trop peu imaginaire. La relation du personnage avec une maladie qu'il fallait montrer chimérique risquait de se trouver faussée par la relation du comédien avec sa propre maladie véritable. Alors, les civilités de Cléante trouvant à Argan bonne mine, la vigueur de la voix et du souffle nécessaires pour brailler et tempêter, ce qu'il fait durant toute la pièce, les prédications menaçantes de M. Purgon, le scepticisme goguenard de Béral de son frère, tout risquait de sonner faux. Si le personnage qui joue Argan paraît malade, tout est grinçant. La pièce rose devient noire. Et cruauté du piège ainsi monté par Molière lui-même, renoncer à jouer, c'était en faire l'aveu, c'était se faire l'aveu qu'il était malade. Mais d'un autre côté, s'offrir le luxe de ce risque revenait à accepter un défi digne de Don Juan et de son auteur. C'était se garantir de la maladie par l'obligation esthétique d'être bien portant. Une obligation, j'ai presque envie de reprendre un mot que j'ai employé tout à l'heure, un héroïsme. Un héroïsme moral, plus encore que physique, fondé sur une confiance supérieure dans la fiction, une confiance dans le théâtre. Car plus que Mascari devenu précieux, plus que Tartuffe devenu dévot, plus que Mercure devenu sosie, Argan est une allégorie du théâtre et du comédien. D'un bout à l'autre de l'action, il joue et se joue à lui-même un rôle de composition. Ou plutôt trois. Celui du malade pour rien durant trois actes. Celui du mort pour voir si sa femme l'aime vraiment, pour voir comment sa fille réagirait s'il était mort. Celui du mort pour voir, donc, durant deux scènes. Et puis, celui du médecin pour rire, durant le divertissement final. Comédien complet, le malade imaginaire possède trois des secrets essentiels du métier, l'art de la composition, l'art du mime et l'art du masque. candide allégorie du théâtre, érigé au bord du gouffre, il flirte avec la maladie et avec la mort, il tente de les apprivoiser, il les taquine, il les enjôle. C'est cela peut-être l'héroïsme artistique. Merci.
C'était Patrick Dandrey, professeur à l'université Paris-Sorbonne. Il s'exprimait sur la résonance étrange entre la pièce du malade imaginaire et la mort de Molière au cours de sa 4e représentation. Cette communication avait lieu dans le cadre de la Journée du Livre 2010 de l'Académie nationale de médecine. Restez à l'écoute de nos émissions en téléchargeant sur Canal Académie une seconde émission sur la mort de Molière, toujours en compagnie de Patrick Dandrey, et puis retrouvez également sur notre site canalacademie.com les retransmissions des autres conférences de cette journée du livre 2010 qui portait sur l'œuvre ultime. Écoutez les conférences consacrées aux dernières œuvres de Poussin, du Titien, de Koenig ou encore de Hans Hartung. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.